m'entendez?
Où en étais-je?
Oh, pourquoi reviens-tu?
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, disait le poète. Mais il y a voyage et voyage, d'agrément ou d'affaires, en 5 étoiles ou en sac à dos. Et surtout, il y a des excursions et des expériences, comme celle que Benjamin Pelletier a vécue en Arabie Saoudite, du moins comme celle qu'il nous relate dans son roman À travers sable. Bonjour Benjamin Pelletier.
Bonjour.
Vous avez vécu combien de temps dans le royaume ?
Personnellement, j'ai fait deux séjours assez longs, un de 15 mois en 2000-2001 et un deuxième séjour en 2006-2007. Donc le livre est la synthèse de ces deux séjours.
Et ce fut comment ?
Ce fut intense, à tout point de vue.
On en reste là dans l'adjectif intense pour l'instant.
Écoutez-vous au lieu de vous piller.
Culture vive, Pascal Paradou.
À travers sable, c'est un drôle de livre que vous venez de publier, Benjamin Pelletier. Enfin, drôle, c'est façon de parler. En tout cas, il commence comme un récit de voyage et se termine comme un roman initiatique. Et quand je dis roman, j'ai un peu envie de prendre des pincettes parce que ce n'est pas vraiment un roman. La preuve, vous y avez passé du temps dans ce fameux royaume. Alors, selon vous, de quelle nature est ce livre ?
C'est une vraie question, mais effectivement il a une double nature. Il commence comme un récit de voyage dans un pays assez exotique qu'est l'Arabie Saoudite, mais il se prolonge progressivement dans une sorte de récit qui est plutôt un voyage intérieur. Et finalement il n'y a pas de rupture entre les deux, il y a une transformation silencieuse et progressive de l'un dans l'autre. Et c'est vrai que la part autobiographique est importante, mais le but c'était de transformer en expérience littéraire. Donc effectivement, le personnage est un personnage. Ce qu'il a vécu n'est pas tout à fait ce que j'ai vécu, et j'ai amplifié beaucoup d'éléments, effectivement.
Vous avez amplifié des éléments, est-ce que vous en avez gommé ?
Oui, bien sûr, c'est un travail littéraire, donc il y a des éléments qu'on met de côté, des choses qui sont pas une matière fondamentale pour le texte. Il y a des choses aussi qu'il faut atténuer, parce que passer dans le texte, on n'y croit plus trop, de même que certains projets immobiliers qu'on voit en Arabie Saoudite sont tellement grotesques ou tellement délirants qu'on ne peut même plus les décrire, par exemple.
Alors, en disant c'est à la fois ceci, oui, et à la fois cela, c'est pas très étonnant quand on vous lit, parce que on voit bien que vous aimez, comment on va dire, les contraires, les contrastes.
Oui, le pays lui-même fait que on est obligé de s'y confronter, puisqu'il n'y a que des extrêmes et pas de nuances dans ce pays. Donc quand vous débarquez en Arabie Saoudite, vous êtes frappé par cet aspect-là. Il fait extrêmement froid, par exemple, c'est très climatisé, il fait très chaud dehors, les hommes sont en blanc, les femmes en noir, le contraste entre la mer et le désert, etc. Et il n'y a pas de nuances. Donc ceci est un vrai choc quand vous arrivez là-bas.
Vous dites parfois que ça vous fait penser à la Scandinavie. Ça, c'est quand même paradoxal, non ?
En fait, c'est une expérience inverse, disons, sur le côté climatique. Vous avez bizarrement trop chaud en Scandinavie, parce qu'on chauffe trop à l'intérieur, il fait trop froid dehors. Et le climat est fondamental, ça a un vrai effet sur votre subjectivité, sur votre état affectif. Et il y a des extrêmes comme ça qui se retrouvent sur cet aspect-là, oui.
Et du coup, cela fait, je crois que c'est un mot savant, ça fait, oui, des oxymores, hein, oui, c'est une figure de style. Oui. Par exemple, vous dites « je tâtonne dans les ténèbres en pleine lumière ».
Oui, la lumière aveugle. Par exemple, là-bas, effectivement, une des choses qui gêne le plus, qui perturbe beaucoup en Arabie, c'est pas tellement la chaleur, c'est la lumière, l'intensité lumineuse qui finit par aveugler. Et on croit qu'on voit beaucoup quand il y a beaucoup de lumière, et non, c'est comme quand vous avez un flash en plein dans les yeux, et bien vous y voyez de moins en moins.
Alors c'est l'histoire, on va raconter un petit peu l'histoire de votre livre, Benjamin Pelletier. C'est l'histoire d'un homme qui débarque en Arabie Saoudite pour le compte d'une chaîne d'hôtels internationaux. Oui. Mais en fait, quelque chose d'autre le pousse à aller vers cette destination vers laquelle personne ne veut aller, hein. Il est pratiquement le seul candidat. Qu'est-ce qu'il pousse ?
Alors c'est assez curieux, mais ce personnage est poussé un petit peu par un goût étrange pour le contraste. Ce qu'il voudrait, c'est trouver quelque chose de tellement différent, tellement éloigné de ce qu'il connaît en Occident, que il retrouverait le goût finalement. Et il se retrouve dans un pays où c'est tellement extrême que il perd cet premier aspect-là. Donc du coup, il se dérègle petit à petit. Il se désoriente en Orient.
Voilà. Et ces impressions sont assez terribles d'entrée de jeu, parce qu'il part sans a priori,
oui,
Mais tout de suite, à la descente de l'aéroport, il va être confronté à ce monde des contraires. Il va vivre dans une villa, que vous dites être dans un camp entouré de barbelés de miradors, par exemple.
Oui, ça c'est... sur le premier aspect, c'est très important. Je voulais effectivement que ce soit pas vraiment un pur regard, mais en tout cas un regard sans a priori, sans préjugés, qui puisse découvrir, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, et que recouvrent les préjugés quand on arrive quelque part, qui découvrent les gens, le paysage, la ville qui est Djeddah en l'occurrence. Et ceci dit, c'est vrai qu'il se retrouve tout d'un coup dans un milieu où les Occidentaux sont parqués dans des, on appelle des compounds, donc des complexes de villas avec des miradors et checkpoints à l'entrée. Du coup, la réalité fait que ça va le dérégler petit à petit.
Oui, les chapitres sur l'a priori, les chapitres, enfin plusieurs, commencent par je ne sais rien, je n'ai jamais rien vu, mais en fait, que va-t-il voir vraiment dans ce pays? Parce qu'il y a une scène très drôle, il voit passer le roi.
Oui, le roi l'été va de Riyad à Djeddah sur la mer Rouge, villégiature, puisqu'il fait un climat beaucoup plus agréable, et le roi passe sous ses fenêtres sur l'autoroute. Mais en même temps...
Dans des avenues qui portent toutes les noms de ses frères, de ses oncles, de ses parents.
Oui, c'est le pays, c'est l'Arabie Saoudite, le pays de la famille Al-Saoud, donc un pays privatisé par une famille, mais c'est vrai que le roi, il ne le verra évidemment pas, de même que... Il a beaucoup d'expériences déceptives. Il voudrait découvrir, voir la mer. Il a du mal à aller la voir parce que tout est muré. Il veut aller dans le désert. Il y a du chou dans les sables, etc.
Donc en fait, il ne voit jamais le roi. Il entend juste ce silence que vous qualifiez de surnaturel. Oui. Et j'ai l'impression que finalement, surnaturel va bien à tout le livre et à toute l'expérience que vous avez vécue là-bas, Benjamin Pelletier. Tout est surnaturel. Vous parliez de l'architecture, mais il y a des reproductions de Versailles, de Venise. Enfin, tout ça est au moins surnaturel, en tout cas totalement surréaliste.
Oui, voilà. Surnaturel qui tire vers ce côté surréaliste et absurde, grotesque. Effectivement, c'est un pays... Il ne faut pas que ça sombre dans le jugement de valeur. Ce qu'il découvre là, c'est effectivement un autre monde avec d'autres repères, d'autres façons de se valoriser, de se mettre en scène, qui sont tellement inconnues et tellement étranges que lui le vit comme une expérience absurde et qui devient une expérience existentielle.
Mais totalement absurde. Donc il est responsable d'une chaîne d'hôtels, il va rencontrer des professionnels sur place, il va rencontrer par exemple un Marocain qui a un hôtel qui appartient à la famille royale où il n'y a aucun client mais à qui il impose à tous les salariés de faire comme s'il y avait des clients, de changer les draps, laver les salles de bain, etc. tous les jours. Incroyable.
Oui. J'ai connu cet hôtel, il existe, il se trouve près d'un site nabatéen où il y a des sites archéologiques et effectivement c'est une ambiance très étrange. C'est cet hôtel de luxe qui est quasiment vide, où il y a juste quelques personnes qui circulent dans le silence des couloirs. Donc effectivement on fait des expériences qui sont amusantes aussi d'un certain côté. Et puis
votre livre est drôle.
J'espère.
Au début, en tout cas.
Il y a effectivement un côté satire aussi. C'est important aussi. Il faut savoir ne pas prendre les choses trop avec sérieux. Mais ceci dit, le narrateur, même s'il ne prend pas trop les choses avec sérieux, progressivement, il finit par être conquis par cet aspect des choses.
Bienvenue dans le royaume d'Arabie Saoudite.
Assalamu alaikum. Welcome to the sunny city of Riyadh. My name is Muhammad. I am a sales executive at Intercontinental Riyadh. Today I am going to take you on an insider tour of the city. Riyadh has a unique blend of Middle Eastern restaurants. Let me show you some of my favorites. In Riyadh you will find all types of authentic Arabic shopping experiences. Let's go visit some of these fascinating shops. On behalf of the Intercontinental Riyadh, I would like to thank you for watching. We look forward to seeing you soon.
L'Arabie Saoudite côté pile, ce sont les pubs que l'on peut voir sur le net, par exemple, pour des chaînes d'hôtels internationaux. Et puis côté face, c'est votre livre, Benjamin Pelletier, à travers sable, quelque chose comme un cauchemar. Vous avez parlé du soleil, vous avez parlé de la chaleur, de ces 40 degrés, 45 degrés qui gomment absolument toute sensation. C'est-à-dire, on se lève, il fait déjà chaud, on se couche, il fait déjà chaud. Enfin, là, vraiment quelque chose comme un cauchemar. Mais vous racontez aussi une société totalement clivée, avec des scènes très très étonnantes, notamment à 80 km de la mer. avec des plages où des dames se promènent en bikini.
Oui, tout le paradoxe, encore une fois, pas nuance que des contraires. Et il y a le bord de la mer Rouge, vous avez des complexes de plages privées qui sont interdits aux Saoudiens. Le voile est interdit, donc plage privatisée avec style un petit peu Club Med, on pourrait dire. Vous pouvez passer la journée là et effectivement, vous passez une enceinte et vous retrouvez sur une plage où les femmes sont bikini, on écoute de la musique occidentale. Et alors que juste derrière le mur, nous sommes justement en pays wahhabite.
Et le personnage dit qu'il a la sensation d'être enfermé dehors, en fait. Le mur a une énorme importance.
Oui.
Enfin, votre vision de l'Arabie Saoudite, finalement, c'est la vision de mur.
Oui, le mur, au sens où, effectivement, entre l'espace privé et l'espace public, il y a un mur. Et ce mur, il est plus ou moins épais suivant les sociétés. Et en Arabie Saoudite, effectivement, c'est un mur très épais. On segmente l'espace de façon très très claire et très précise jusqu'à ce que l'espace public soit quasiment désocialisé. Et du coup, quand on quitte l'espace privé pour aller découvrir l'espace public, que ce soit le désert, la mer ou autre chose, on étouffe un petit peu, finalement, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre que le paysage, qui peut être grandiose, mais... finalement, au niveau de la sociabilité, eh bien, finalement, c'est le néant. Et on se sent bizarrement enfermé dehors.
Et vous dites qu'il n'y a aucun divertissement. Alors, Blaise Pascal se renverserait, se retournerait dans sa tombe plutôt, mais vous dites que sans divertissement, on ne peut pas voir l'essentiel.
Oui, il se retournerait dans sa tombe, mais il serait peut-être content de se retrouver en Arabie, parce que c'est très intéressant, justement, quand on supprime le cinéma, la musique, le théâtre, l'opéra, etc., etc., de l'espace public, eh bien, on se retrouve face à l'essentiel. Et cet essentiel, à vous de voir comment vous vous arrangez avec. Soit vous en riez, soit, au contraire, vous en faites quelque chose qui peut rester. Et il y a un côté, effectivement, l'absence de divertissement qui fait toucher à une expérience existentielle là-dessus.
C'est l'expérience existentielle que vous racontez, mais j'aimerais quand même que l'on revienne un tout petit peu sur l'histoire du mur, parce que tout cela est raconté avec les mots d'un écrivain, et j'aimerais que vous lisiez un extrait de votre livre, Benjamin Pelletier. Donc le personnage est justement dans une plage à 80 km de la ville sainte de la Mecque. Les femmes sont en bikini et passent du bon temps.
Un mur épais, élevé, opaque. D'un côté la mer, de l'autre le désert. D'un côté on se dénude, de l'autre on se voile. D'un côté on s'amuse, de l'autre on décapite. Corps bronzé, tête rieuse. Corps voilé, tête coupée. Le mur rétrécit. D'un côté, cri de joie. De l'autre, cri de supplicié. Le mur rétrécit jusqu'à devenir une mince cloison. Les cris mêlent plaisir et souffrance. Peu importe. On ne se voit pas. La cloison diminue. On se devine les uns les autres à travers un rideau. On observe les figures tordues qui se dessinent dans le tremblé des ombres. Chacun reconnaît son semblable. Tiens, il s'amuse. Tiens, il souffre. On se reconnaît et on ne se reconnaît pas, tout continue. Les corps tordus, les ballons qui volent d'un côté, les têtes de l'autre. Un coup de vent écarte soudain le rideau, et chacun découvre le spectacle de l'autre. Le rideau volette avec grâce, puis lentement se replace. Les uns reprennent leur souffle, les autres expirent. Et les bruits insupportables recommencent. Les rires et les chansons de Madonna d'un côté, les cris et les prières à Allah de l'autre.
Madonna, on écoute beaucoup Madonna en Arabie Saoudite, Benjamin Pelletier.
Oui, chez soi, en privé, ou dans sa voiture éventuellement, pas trop fort.
Exclusivement chez soi ou dans sa voiture.
Oui, la musique. En fait, il y a quelques endroits, mais ils sont très rares. Quelques cafés, notamment à Jeddah, où vous avez un petit peu de jazz ou musique lounge. Mais généralement, dans les restaurants ou les hôtels, c'est très rare. Ou un petit peu de musique classique parfois, mais très très rare.
Alors, je ne voudrais pas réduire votre livre à travers sable à un récit comme ça purement pittoresque, même si c'est terrible, de l'Arabie Saoudite. Mais quand même, on apprend deux, trois choses assez incroyables, dont l'existence, par exemple, du tombeau d'Ève. Ça, c'est une histoire incroyable, très ignorée, voire taboue.
En fait, Jeddah, le nom même de la ville de Jeddah, viendrait de... Alors, il y a pas mal de polémiques là-dessus, mais de l'arabe qui signifierait grand-mère, en souvenir de la présence d'Ève sur la côte de la mer Rouge, et notamment de la présence d'une tombe et d'une église chrétienne. Donc, dans le livre, le personnage part à la recherche de cette tombe d'Ève. Mais c'est vrai qu'elle existe. Il y a des photos que j'ai vues, la tombe d'Ève, sur un site du ministère des Affaires étrangères, d'ailleurs, où il y a des photos d'archéologie. Et il y avait une église, effectivement, chrétienne. Et donc des pèlerins venaient se recueillir sur la tombe d'Ève pendant des siècles. Et c'est vrai que ça mettait un peu en péril l'unité que cherchait le gouvernement saoudien au XXe siècle. Et donc elle a été murée, bétonnée. Mais il y a toujours le site à Jeddah qui existe.
Et un soldat qui veille.
Et un soldat qui veille, un site bien gardé, effectivement.
Il y a donc ces événements-là, il y a donc ces lieux-là, il y a aussi le désert. Alors, on évoque au fur et à mesure, en fait, les éléments du pays au fur et à mesure que vous les racontez dans votre livre, finalement, Benjamin Pelletier. Le désert, voilà, ça c'est presque la fin du livre, c'est quelque chose de l'ordre du choc quand vous allez dans le désert. Mais alors, quand beaucoup d'écrivains, de philosophes, de penseurs ont des expériences mystiques et parfois disent avoir découvert Dieu, vous découvrez là que Dieu n'existe pas.
Oui, d'une part, traversable n'est pas une récit d'une traversée du désert. Au contraire, le personnage, quand il va dans le désert, il va y échouer comme un bateau sur la mer d'Ara, là, échouer sur les berges. C'est une chose. Donc ce n'est pas de l'exploration, c'est vraiment une tentative d'aller voir autre chose que fait le personnage. Et ceci dit, ce qu'il y trouve, effectivement, ce n'est absolument pas une expérience mystique, en quoi que ce soit, mais plus une expérience intérieure. C'est-à-dire que le dépouillement du désert le ramène à sa propre enfance, à son enfance primordiale, à des souvenirs qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec le désert, mais qui vont progressivement le construire jusqu'à la fin du récit pour retrouver une sorte d'innocence du regard. Et c'est ce qu'il retrouve, oui.
C'est important le vide. C'est important pour un écrivain, pour un homme, celui que vous êtes, Benjamin Pelletier, cette confrontation avec le vide.
Là, oui, certainement. On va pas rentrer sur le cliché du vide et du plein, mais c'est dans le creux que se lisent beaucoup de reliefs. Et justement, l'expérience de l'Arabie Saoudite oblige à explorer pas mal de creux. D'où certains reliefs, j'ose espérer, dans le texte.
Cela vous amène, en tout cas, ce voyage à des expériences d'ordre existentiel et d'ordre philosophique de cette façon, enfin de cette manière.
En tout cas, c'est un retour à une certaine naïveté, innocence de l'enfance. Et l'enfant est celui qui pose beaucoup de questions qui sont extrêmement essentielles, mais qui n'a pas encore les moyens de creuser. Donc ce qu'on peut faire quand on écrit, c'est de creuser ces questions-là. Mais pour y revenir, pour revenir à ce regard-là, à cette certaine innocence des sensations et des émotions, il fallait traverser beaucoup de déserts.
Vous dites que vous avez franchi votre point de non-retour. Sa dernière phrase du livre, d'ailleurs.
Le point de non-retour, c'est extrêmement important, puisque c'est le moment où vous devez justement rebrousser chemin pour avoir le temps pour avoir assez de force pour rentrer chez vous. Si vous passez le point de non-retour, vous ne pouvez plus. Donc, effectivement, vous allez vers l'inconnu, mais les explorateurs, les voyageurs, les bédouins, les navigateurs savent bien quel est le point de non-retour. Mais personnellement, individuellement, existentiellement, nous devons aussi le savoir. À quel moment il faut aussi savoir rentrer, ce qui n'est pas forcément une défaite ou un échec. Et mettre de côté sa fierté, mais essayer d'être conscient de soi-même pour savoir à quel moment il faut partir. Et donc le personnage doit apprendre quel est son point de non-retour.
Donc en Arabie Saoudite, Benjamin Pelletier, vous avez en fait appris, comment dire, vos limites.
Oh, je pense que, je ne sais pas si je les ai apprises, mais enfin, en tout cas, c'est une exploration de ses limites. Après, on ne les connaît jamais complètement, mais certainement, je crois que ce que je décris là n'est pas une expérience vraiment individuelle. Ceux qui passent par ce pays-là sont mis à l'épreuve. Ils se révèlent franchement dans leurs limites. Qu'est-ce qu'ils sont capables de supporter ou pas, d'accepter ou pas.
Oui, épreuve au sens de d'éprouver, enfin.
Oui, tout à fait, oui.
D'éprouver jusqu'au maximum de soi. Mais finalement, à l'arrivée, n'y a-t-il pas une forme de liberté ?
Paradoxalement, peut-être, c'est d'ailleurs ce que recherche finalement ce personnage qui se sent enfermé dehors. C'est finalement le texte ici présente quelqu'un qui traverse moins le désert que le temps, sa propre histoire, sa propre enfance, et cette vraie liberté, c'est celle de son regard retrouvé. Ça, c'est ce qui permet de dépasser tous les murs d'ailleurs.
Merci Benjamin Pelletier.
Je vous en prie.
Intraversable, c'est un livre passionnant qui est publié aux éditions de l'Olivier. Alors après cette épreuve qu'est l'Arabie Saoudite, je vous propose de vous détendre avec des rythmes brésiliens. C'est funky et c'est de la bossa, c'est le groupe Bossa Kuka Nova. Benjamin Pelletier, autorisé ou interdit en Arabie Saoudite ce type de rythme ?
Parfaitement autorisé à la maison, vous pouvez venir.
Ah oui, toujours à la maison. Alors en tout cas, c'est à la radio et c'est la découverte du jour, José Marinho, ce groupe Bossa Kuka Nova.
Nova. À Rio, les femmes se dévoilent un peu plus quand même. Hein.
Nettement.
Et c'est pas
plus.
La lumière qui aveugle. Hein.
Vous savez, l'érotisme est très voilé parfois. Hein.
Voilà, c'est vrai. Donc Bossa Kuka Nova, c'est la simplicité intemporelle de la bossa, comme on l'aime. Ça sonne comme du neuf, mais c'est du vieux conçu avec du moderne. La recette, en fait, est vieille comme la caipirinha. Le secret est dans le dosage. Juste ce qu'il faut en sucre à canne, donc pour la tradition. Surtout pas trop d'eau, histoire de maintenir l'équilibre du rythme. Quelques gouttes de citron côté acide jazz et un peu plus que d'habitude de cachaça relève, disons, la présence électronique. Tout ceci subtilement remixé par les trois DJ carioca swing dans les plages d'Ipanema comme les vinyles rares profondément enracinés dans l'essence même de la bossa. Le trio marquant de la nouvelle vague brésilienne Bossa Kuka Nova invite les grandes têtes de la révolution de la bossa nova des années 60 qui a donné l'origine au tropicalisme, cette révolution culturelle, des gens comme Roberto Menes et Carlos Lyra a chanté 10 classiques toujours très glamour de cette musique finalement très universelle.
Mais alors cet album sort pour les 50 ans de la bossa, puisque ça fait 50 ans que ce genre, que ce style a été inventé. Vous parliez de nouvelle vague, José. Est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle vague dans la musique brésilienne ?
Bien
sûr. C'est pas la première fois que vous venez avec des albums assez étonnants.
Alors, c'est simple, au Brésil, les artistes sont un peu des anthropophages culturels. C'est-à-dire, ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est dépassé demain. Donc, il y a toujours une nouvelle vague tous les jours. C'est un peu comme ça au Brésil. Ils absorbent toutes les cultures. Même dans la langue portugaise, il y a de l'anglais, de l'espagnol, du portugais. C'est comme ça. C'est le métissage par excellence.
Donc, la mer est toujours agitée.
Toujours.
Amanheceu um lindo dia.
Vivo, c'est le titre de ce groupe de Bossa qui s'appelle donc Bossa Cucanova, un groupe carioca édité chez Kramet Disque pour les 50 ans de la Bossa. Et il faut préciser, José, qu'il y a un DVD qui accompagne le disque.
Très bien, sur l'histoire de la Bossa, repris par justement les nouvelles générations. Juste un mot rapidement sur l'histoire du mot Bossa Nova. En fait, Carlos Lira et Roberto Menescal, dans les années 60, se pointent dans un bar qui s'appelle le Club Hebraica, et Bossa c'est une façon de chanter, de dire les choses, et il dit comme ça spontanément, ah, voilà, les Bossa Nova sont arrivés, et c'est comme ça que le nom est né.
Voilà. Donc si un jour je dis voilà José qui arrive, on peut inventer un nom et un courant.
Pour l'avenir peut-être.
On verra. Allez, trêve de plaisanterie. Culture Vive avec Sabine Derosière, réalisation signée Guillaume Ploquin, à la technique Richard Rifono. Demain ce sera le contrebassiste de jazz Henri Texier qui sera notre invité pour son album Love Songs Reflection, avec l'accent, tenez-vous bien. Culture Vive, à demain.